En 1882, l'un des plus brillants professeurs de théologie d'Allemagne a envoyé une lettre de démission, disons totalement inattendue, à l'université de Greifswald.
Oui, un vrai coup de tonnerre dans le milieu académique, en fait.
C'est le moins qu'on puisse dire. La raison de son départ, c'est que sa propre théorie sur la formation de la Bible fonctionnait si bien qu'elle venait, en gros, de détruire sa capacité à l'enseigner.
C'est quand même incroyable.
Ouais, il avoua avec une honnêteté brutale que ses recherches ne préparaient plus du tout ses étudiants à devenir pasteurs. Du coup, cette théorie n'a pas seulement mis fin à sa carrière, elle a complètement bouleversé notre manière de lire les textes anciens.
Absolument. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui.
Voilà. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de cette révolution intellectuelle. En se basant sur les conférences du professeur Robert Van Hooy, notre mission, c'est de comprendre comment le monde universitaire est passé d'une lecture littérale et historique de l'Ancien Testament à la vision d'une mosaïque hyper complexe, tissée de mythes et de légendes.
Et cette bascule, elle est fondamentale. C'est pas juste un débat de spécialistes enfermé dans des bibliothèques poussiéreuses, tu vois.
Non, c'est clair.
C'est une réflexion super profonde sur la nature de l'histoire, sur la manière dont les traditions orales mutent et sur les critères qu'on utilise pour décider si un texte dit la vérité ou s'il fait juste de la poésie.
Et le professeur qui a envoyé cette fameuse lettre de démission, il s'appelait Julius Wellhausen.
Exactement. Et pour saisir l'onde de choc qu'il a provoquée, il faut d'abord comprendre l'idée reçue qu'il a cherché à détruire en premier lieu.
Oui, parce que pendant des millénaires, l'idée dominante était assez simple en fait. Un auteur unique s'asseyait et rédigeait un texte.
Voilà la vision classique.
Par exemple, on attribuait traditionnellement les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuch, à Moïse. Un seul homme, un récit bien linéaire. Mais Wellhausen arrive au 19e siècle et propose ce qu'on appelle l'hypothèse documentaire, le fameux acronyme JEDP.
Et il lance pas cet acronyme au hasard. Hein. Wellhausen ne s'est pas réveillé un matin en décidant de diviser le texte juste pour le plaisir.
Ce serait un passe-temps un peu étrange.
Un peu, oui. En fait, il a appliqué une méthode d'analyse super minutieuse en cherchant des indices textuels. En lisant la Genèse, les chercheurs de cette époque, et lui en particulier, ont remarqué des ruptures de style qui sont vraiment frappantes.
Du genre ?
Par exemple, parfois Dieu est appelé Yahweh ou Jéhovah. Et puis, quelques versets plus loin, le texte change d'un coup et utilise le mot Elohim. Et en plus de ça, ils ont relevé ce qu'ils appellent des doublets.
C'est-à-dire la même histoire racontée deux fois ?
C'est ça, deux récits de la création qui semblent légèrement différents, ou deux histoires où un patriarche fait passer sa femme pour sa sœur.
D'accord. Donc, au lieu de voir ça comme un style littéraire particulier, ou je sais pas, des nuances d'un même récit, Wellhausen s'est dit un seul auteur ne décrirait pas la même chose deux fois avec des vocabulaires si différents.
Exactement sa logique.
Il s'est dit que ce sont forcément des documents séparés qui ont été collés ensemble beaucoup plus tard. Bon, décortiquons tout ça. Comment il a découpé le texte, Lubo ?
Alors, avec une logique implacable, il a découpé le texte en 4 grandes sources hypothétiques. D'abord, la lettre J, pour la source Jéhoviste. Il la date d'environ 850 avant notre ère, parce qu'elle utilise le nom Yahweh.
Ok, ça c'est la première brique.
Ensuite, il y a la source E, pour Elohim, vers 750 avant notre ère. La troisième, c'est D, pour Deutéronomiste, rédigé beaucoup plus tard, vers l'an 621, sous le règne du roi Josias.
Et la dernière lettre, du coup ?
Le P.
C'est la dernière pièce du puzzle, oui. P, pour le document sacerdotal, ou Priestly en anglais, qui daterait d'environ 450 avant notre ère, donc vraiment après le traumatisme de l'exil des Juifs à Babylone. Si on essaie de visualiser la chose, c'est un peu comme si le Pentateuque était une immense page Wikipédia, non ?
C'est une excellente façon de le voir.
Imaginons que cette page n'ait pas été écrite par un seul historien, mais éditée, modifiée et fusionnée sur plusieurs siècles par des contributeurs qui avaient des agendas politiques et religieux très différents.
L'analogie de Wikipédia est redoutablement pertinente. Et ce qui est fascinant ici, c'est surtout lié aux modifications apportées par le dernier contributeur, la fameuse source P, en 450 avant notre ère.
Qu'est-ce qu'ils ont changé ?
Wellhausen affirme que ces prêtres de retour d'exil ont pris leurs propres lois contemporaines, leurs rituels rigides, et ils les ont rétroactivement insérés dans les histoires des patriarches qui auraient vécu 1000 ans plus tôt.
Ah d'accord, pour légitimer leurs propres pratiques.
Exactement. Des éléments centraux, comme l'alliance avec Dieu ou la circoncision, auraient été projetés dans le passé d'Abraham pour donner un poids historique énorme aux pratiques sacerdotales récentes,
Mais attends, il y a une question évidente qui se pose là. Découper un texte antique avec un scalpel littéraire comme ça, c'est fascinant sur le papier. Mais est-ce qu'on a trouvé, je veux dire archéologiquement parlant, des brouillons ?
Ah.
A-t-on déterré un parchemin qui contiendrait uniquement la source J ou juste la source E pour prouver que ces documents ont vraiment existé de manière indépendante ?
La réponse courte, c'est non.
Non ?
Rien du tout.
Absolument rien.
Et c'est ce qui rend le triomphe académique de cette théorie si singulier, en fait. L'hypothèse documentaire, c'est une construction intellectuelle pure. Il n'y a aucune preuve documentaire physique.
C'est fou.
Aucun manuscrit isolé de J, E ou P n'a jamais été trouvé. Mais la théorie expliquait si bien les tensions du texte et s'alignait tellement bien avec l'esprit scientifique du XIXe siècle qu'elle est devenue la norme absolue.
L'esprit du XIXe siècle, on parle de l'époque de Darwin, là, n'est-ce pas ? L'idée que tout évolue du plus simple au plus complexe.
Si l'on relie ça au contexte global, c'est l'arrière-plan philosophique indispensable pour comprendre Wellhausen. Il a appliqué un modèle évolutionniste à la religion elle-même.
Comment ça ?
Bah, selon lui, la religion d'Israël n'est pas tombée du ciel sous une forme monothéiste parfaite. Elle a commencé comme une religion naturelle, presque animiste, avec les sources primitives J et E.
Et ensuite ?
Ensuite, elle a évolué vers l'énothéisme.
L'énothéisme ?
Oui. L'idée que, en gros, notre Dieu est le plus fort de tous les dieux, mais on accepte que les autres existent. Ça, c'est avec les prophètes et la source D. Pour finalement se figer dans un monothéisme strict et ritualiste avec la source P.
Ce qui nous ramène directement à la crise de conscience de Wellhausen dont on parlait au début. Si la Genèse n'est qu'un patchwork tardif rempli d'anachronismes visant à justifier l'évolution d'une religion, on comprend pourquoi il a estimé ne plus pouvoir former des pasteurs.
C'est clair. Le message central était pulvérisé.
Il a eu l'intégrité de dire « Je viens de déconstruire le fondement même de la foi que cette université est censée prêcher, donc je me retire. » Et il est parti enseigner les langues sémitiques ailleurs, avec interdiction stricte de toucher à l'Ancien Testament.
C'est une intégrité intellectuelle incroyable, mais qui a eu des conséquences paradoxales, surtout de l'autre côté de l'Atlantique.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pendant que Wellhausen démissionnait en Allemagne, les grandes universités américaines envoyaient leurs meilleurs étudiants se former en Europe.
Oui, l'Allemagne était le centre du monde intellectuel à l'époque.
Et c'est une ironie de l'histoire assez spectaculaire. Ces étudiants américains s'assaient dans les amphithéâtres allemands, ils absorbent toute l'hypothèse documentaire, ils apprennent à découper la Bible en J, E, D et P, puis ils font leur bagage.
Ils rentrent chez eux.
Ils retournent aux États-Unis. Et là, ils conservent leur poste dans les séminaires américains. Ils importent la méthode critique, mais ils laissent la crise de conscience à la douane, en gros.
C'est exactement ça. Et c'est ce transfert intellectuel qui a littéralement fondé la théologie libérale moderne aux États-Unis.
Mais la recherche ne s'est pas arrêtée là.
Ah non, ce transfert ne s'est pas arrêté aux documents écrits. Parce que la théorie de Wellhausen laissait quand même une faille béante dans son raisonnement.
Laquelle ?
Admettons que la source J date de 850 et la source P de 450. Les auteurs de ces documents n'ont pas simplement inventé un millénaire d'histoire en se levant un beau matin. Où ont-ils trouvé leur matière première ?
Ah oui ? Le professeur Vanhooy utilise une expression néerlandaise assez imagée pour illustrer ça. Il dit que l'auteur du document P n'a pas sucé ça de son pouce.
C'est très imagé, oui.
En d'autres termes, il n'a pas tout sorti de son imagination. Il a dû compiler des récits qui circulaient déjà, non ?
Exactement. Et c'est là qu'entre en scène la génération suivante de chercheurs, incarnée par un homme nommé Hermann Gunkel.
Hermann Gunkel, ok.
Gunkel, qui a œuvré entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, accepte totalement le découpage GIDP de Wellhausen. Mais lui, il veut remonter plus loin.
Jusqu'où ?
Ils veulent dépasser le texte écrit pour retrouver la tradition orale, tu vois, remonter jusqu'au feu de camp des tribus nomades. C'est la naissance de ce qu'on appelle la critique des formes.
Alors, faisons une pause sur la terminologie, parce qu'il est facile de s'y perdre. On entend souvent opposer la basse critique et la haute critique dans ces débats académiques. C'est quoi la différence, en fait ?
C'est une bonne question. Ça permet de clarifier les méthodes. La basse critique, qu'on appelle aussi la critique textuelle, c'est un vrai travail de fourmi sur les supports physiques.
D'accord. L'archéologie des textes.
C'est ça. Il s'agit de comparer des milliers de manuscrits, en hébreu ou en grec, pour repérer les fautes de copie, les mots manquants, et tenter de reconstituer la version la plus pure du texte original.
Et la haute critique, alors ?
La haute critique, celle pratiquée par Wellhausen et Gunkel, ne s'intéresse pas du tout à l'orthographe ou aux erreurs de copiste. Elle enquête sur l'origine du texte. Qui parle ? Quand ? Pourquoi ? Et surtout, sous quelle forme littéraire ?
Ok, c'est l'histoire derrière l'histoire. Et pour faire cette haute critique de la tradition orale, Günkel a forgé des concepts allemands qui sont devenus vraiment incontournables.
Oui, il y a le Gattung, par exemple.
Le Gattung, c'est ça, qui désigne le genre ou la forme littéraire d'un petit récit. Et surtout, il y a le fameux Sitz im Leben. Ça se traduit grossièrement par la situation dans la vie. Mais comment on fait concrètement pour trouver la situation dans la vie d'un récit oral millénaire ?
L'idée de Günkel, c'est que chaque événement social humain produit une forme de discours très spécifique. Par exemple, une chanson de victoire entonnée par des femmes après une bataille n'a pas la même forme ni le même vocabulaire qu'une lamentation funèbre ou qu'une loi dictée par un prêtre.
Ça paraît logique.
Du coup, en analysant la structure rythmique et le vocabulaire d'un seul verset biblique, Günkel pensait pouvoir déterminer exactement l'événement social, le Sitz im Leben, qu'il avait fait naître des siècles avant sa mise par écrit.
On peut tout à fait transposer cette logique à notre époque pour mieux la saisir, je pense.
Vas-y, je t'écoute.
Si, en faisant des fouilles dans une archive du XXe siècle, on trouve un bout de papier qui dit, je sais pas, stop, réunion annulée, stop, retour demain, stop.
Oui, on voit tout de suite ce que c'est.
Bah oui, le format brut et répétitif crie la nature du document. On comprend immédiatement qu'il s'agit d'un télégramme. Et ce genre littéraire nous révèle sa situation dans la vie, son Sitz im Leben, une époque où la communication instantanée était si coûteuse qu'on facturait au mot près, ce qui obligeait à une urgence télégraphique.
L'analogie est parfaite, vraiment. À l'inverse, si le papier contient de longues phrases fleuries, des alexandrins et des métaphores sur la beauté d'un regard, c'est une lettre d'amour.
Clairement.
Son Sitz im Leben, c'est l'intimité d'un cours romantique. La forme trahit le contexte. Günkel a pris cette méthode et l'a appliquée méthodiquement à chaque petite histoire, chaque poème, chaque généalogie du livre de la Genèse.
Mais alors, qu'est-ce que tout ça veut dire ? Si ces récits sont les lointains échos de chants de victoire ou d'histoires racontées autour d'un feu de camp, la question de leur valeur historique devient explosive.
Absolument.
Comment Günkel nous demande-t-il de lire la Genèse aujourd'hui ? Est-ce qu'on doit la lire comme un livre d'histoire ancienne ?
Surtout pas. Sur ce point, Günkel trace une ligne rouge infranchissable. Pour lui, la Genèse n'est pas de l'histoire, c'est de la légende.
De la légende, c'est fort comme mot.
Il prend d'ailleurs soin de distinguer le mythe de la légende. Le mythe met en scène des dieux agissant dans un monde divin. La légende, elle, s'articule autour de héros humains, souvent les ancêtres fondateurs d'une nation.
Donc pour lui, c'est de la légende.
Oui, et pour Günkel, dire que la Genèse est une légende, ce n'est pas une insulte. C'est affirmer qu'il s'agit de poésie. Et dans sa conception, la poésie est un véhicule bien plus puissant et raffiné que la froide prose historique pour exprimer des vérités spirituelles.
D'accord, la poésie a une valeur immense, on est bien d'accord. Mais il y a quand même un gros hic dans la méthode de Günkel pour classer un texte dans la catégorie légende.
Lequel ?
Il utilise un postulat qu'il appelle le principe d'analogie historique. En gros, il décrète d'emblée que les miracles n'existent pas. Un serpent ne parle pas, un arbre ne donne pas la vie éternelle, et comme dans le chapitre 14 de la Genèse, un petit groupe de 318 serviteurs ne peut pas anéantir à lui seul une coalition de rois et de grandes armées.
C'est tout à fait sa vision des choses.
Mais du coup, puisque ces choses n'arrivent pas dans notre expérience contemporaine, Günkel affirme qu'elles ne se sont jamais produites. Donc, si un récit contient un miracle, paf, c'est la preuve mathématique que c'est une légende.
Et c'est là le nœud du problème soulevé par la conférence du professeur Van Wy. La méthode de Günkel est verrouillée de l'intérieur par son propre présupposé philosophique, en fait.
Mais c'est même une faille logique colossale, non ?
Ah bah, ça se discute fortement, oui.
C'est comme s'improviser critique d'un roman de science-fiction tombé sur une scène de voyage interstellaire et conclure « Ah, puisque nous n'avons pas de vaisseau capable de dépasser la vitesse de la lumière aujourd'hui, l'auteur ne pouvait pas vraiment parler d'espace. Il s'agit sûrement d'une métaphore poétique sur ses trajets en train. »
C'est une comparaison amusante, mais c'est ça.
N'est-ce pas tricher que d'étudier un texte affirmant que Dieu intervient dans l'histoire en décidant à l'avance que toute intervention divine est impossible ?
C'est un argument circulaire classique, oui. Mais la critique devient encore plus complexe quand on regarde comment les générations suivantes ont lu ces textes.
C'est-à-dire ?
Que fait-on, par exemple, des figures du Nouveau Testament ? Le Christ et les apôtres font constamment référence à Adam, Noé ou Abraham comme à des personnages historiques réels.
Ah oui, c'est un vrai problème pour la théorie.
Oui, si Günkel a raison, cela signifierait que Jésus lui-même s'est trompé sur la nature de ses propres textes sacrés.
Et comment Günkel se sort-il de cette impasse, alors ?
Avec une certaine désinvolture intellectuelle, il faut bien l'avouer. Günkel affirme que Jésus et les apôtres n'étaient que, je cite, « des enfants de leur temps ».
Des enfants de leur temps ?
Voilà. Ils baignaient dans une vision du monde pré-scientifique, selon lui. Par conséquent, leur opinion sur la validité historique de l'Ancien Testament n'a, à ses yeux, aucune valeur académique ou critique pour un chercheur moderne.
Balayer ainsi des figures centrales d'une religion pour sauver sa théorie, c'est pour le moins audacieux.
Et son audace ne s'arrête pas là, figure-toi. Günkel forge une expression mémorable et particulièrement condescendante pour quiconque persisterait à lire la Genèse comme un compte-rendu factuel.
Comment il les appelle ?
Il les qualifie de barbares pieux.
Sympa.
L'idée, c'est que si tu t'accroches à l'historicité littérale d'un texte, tu manques cruellement de raffinement. Tu es perçu comme quelqu'un de brutalement naïf, dépourvu de la faculté esthétique nécessaire pour apprécier l'art poétique complexe de la légende.
C'est vertigineux. On passe du respect sacré pour un texte à l'insulte académique pour ceux qui le prennent au pied de la lettre. Mais bon, admettons un instant la grille de lecture de Günkel.
D'accord, jouons le jeu.
Si ces récits n'ont aucune réalité historique factuelle, pourquoi les peuples anciens prenaient-ils la peine de les mémoriser et de les transmettre de génération en génération autour du feu ? À quoi servaient ces légendes ?
C'est là que Günkel introduit le concept fascinant de la légende étiologique.
Étiologique.
Oui, l'étiologie, c'est l'étude des causes. Les hommes de l'Antiquité observaient le monde naturel, les relations politiques, les traditions de leur tribu, et se posaient la question universelle « pourquoi les choses sont-elles ainsi ?»
Ils cherchaient des réponses à leur quotidien.
C'est ça. Et selon Günkel, les légendes de la Genèse ont été créées a posteriori pour fournir des réponses narratives à ces questions. Il les classe en quatre grandes catégories.
D'accord. Commençons par explorer la géopolitique antique, si tu veux bien. C'est la première catégorie, je crois. Les légendes ethnologiques.
Exactement. Imagine des tribus nomades qui observent leurs voisins. Ils se demandent pourquoi la tribu qui descend de l'eau vit-elle dans des terres arides à l'est pendant que nous habitons ici, où ? Ou pourquoi la tribu de Canaan est-elle asservie à la nôtre ?
Et donc, ils inventent une histoire pour ça.
Voilà. Au lieu de chercher des traités géopolitiques anciens qui n'existaient pas, le récit populaire va générer une histoire, par exemple l'histoire d'une malédiction prononcée par un ancêtre commun, pour expliquer et justifier la structure sociale du présent. Le présent invente le passé.
Ensuite, il y a la passionnante catégorie des légendes étymologiques. Les anciens cherchaient à expliquer l'origine des noms propres ou des noms de villes, c'est bien ça ?
Tout passé, le récit biblique de la tour de Babel en est l'exemple parfait pour Günkel.
Ah oui.
Le texte raconte que Dieu y a confondu le langage des hommes, car en hébreu, le verbe « balal » signifie « confondre » ou « mélanger », ce qui ressemble phonétiquement au nom Babel.
Un jeu de mots en somme.
Exactement. Autre exemple, le patriarche Jacob. Son nom ressemble au mot hébreu pour « talon ». Le récit raconte donc qu'à sa naissance, il tenait le talon de son frère jumeau Ésaü.
C'est super intéressant parce que Günkel adorait illustrer comment ces fausses étymologies, ces origines folkloriques, naissent spontanément, même dans des cultures récentes.
Oui, il utilisait souvent des exemples très amusants de la toponymie nord-américaine.
Oui, l'anecdote sur le fleuve Connecticut est excellente. À l'époque de Günkel, une histoire populaire prétendait que le fleuve s'appelait ainsi parce qu'il connecte en anglais, deux États américains et en coupe deux autres. Cuts. Connect and cuts.
Ce qui est linguistiquement absurde, bien sûr.
Totalement. Le nom vient en fait d'une langue amérindienne, mais l'explication populaire anglo-saxonne était juste trop séduisante pour ne pas être racontée. Günkel mentionnait aussi Manhattan, d'ailleurs.
Oui, l'histoire du chapeau.
C'est ça. Selon une fable locale, un explorateur hollandais serait arrivé sur l'île avec un chapeau immense, poussant un chef indigène à s'exclamer dans un anglais très approximatif « Man hat on », l'homme porte un chapeau.
L'absurdité de ces exemples modernes sert vraiment de démonstration. Günkel affirme que les explications des noms dans la Genèse fonctionnent exactement sur ce même moteur de l'invention populaire.
Et la troisième catégorie alors ?
La troisième prolonge cette idée dans le domaine religieux, ce sont les légendes cérémonielles.
C'est-à-dire l'explication des rituels qu'ils pratiquaient.
Tout juste. Les anciens pratiquaient le sabbat, offraient des sacrifices spécifiques ou pratiquaient la circoncision. Quand un jeune enfant demandait « Dis, pourquoi ne travaille-t-on pas le septième jour ?», la réponse historique de l'origine du rite était souvent perdue dans la nuit des temps.
Du coup, on racontait une belle histoire à la place.
C'est ça. On racontait alors une légende majestueuse expliquant que Dieu lui-même s'était reposé le septième jour de la création. Ça ancrait un rite social dans un ordre cosmique primordial.
Et la dernière catégorie, qui est peut-être la plus visuelle pour le coup, concerne les légendes géologiques. Les anciens observaient la géographie un peu tourmentée de leur région. Prenez la mer Morte, une vaste étendue d'eau salée où absolument aucune vie marine n'est possible, complètement entourée de terres désolées.
C'est un paysage très particulier.
Oui. Comment expliquer cette anomalie terrifiante de la nature ?
Eh bien, la nature engendre l'histoire morale. Le folklore développe le récit de villes pécheresses, Sodome et Gomorre, détruites par un cataclysme divin, pour expliquer l'aridité du paysage, tout simplement.
Et s'ils apercevaient une formation rocheuse étrange sur le rivage, par exemple un pilier de sel au contour vaguement humain, la légende éthiologique s'en emparait directement.
Exactement. Ça devient la femme de Lot, transformée en statue pour avoir désobéi en regardant la destruction de sa ville.
C'est une construction intellectuelle fascinante et qui, honnêtement, répond à presque tout. Mais quand on met toutes ces théories bout à bout, la question ultime s'impose. Gunkel lui-même s'en est rendu compte d'ailleurs, puisqu'il a publié un ouvrage intitulé « Que reste-t-il de l'Ancien Testament ?»
Une question très légitime à ce stade.
Bah oui, si tout ce qu'on vient de décrire est vrai, si le texte n'est qu'un millefeuille politique tardif, rempli de mythes nomades, de fausses étymologies amusantes et de récits géologiques, que reste-t-il réellement à sauver dans ce livre ?
La réponse de Gunkel est sans équivoque. Ce qui subsiste, et ce qui est d'ailleurs la seule chose qui compte à ses yeux, c'est le concept moral et l'émotion religieuse pure. L'exactitude des événements n'a pour lui strictement aucune importance.
Donc on le lit comme une fable, en gros.
C'est exactement ça. Gunkel lirait l'histoire de Caïn et Abel un peu à la manière dont nous lisons les fables de Jean de La Fontaine ou d'Ésope. Personne ne se soucie de savoir si un lièvre a historiquement, factuellement, perdu une course à pieux face à une tortue un mardi après-midi dans l'Antiquité.
Ce serait absurde.
Voilà. L'essentiel, c'est la vérité psychologique et morale sur l'orgueil et la persévérance.
Le message transcende le fait, en somme.
Exactement. L'histoire de Jacob enseigne des principes sur l'amour fraternel et la providence. Le premier chapitre de la Genèse, même s'il est considéré par Gunkel comme de la pure mythologie, il conserve une solennité et une beauté poétique inégalées sur l'idée de la création. Pour la théologie libérale issue de ses travaux, la valeur d'un texte ne dépend plus de son adéquation avec la réalité historique, mais uniquement de sa résonance éthique.
C'est un bouleversement colossal du paradigme, quand même. Pour résumer cette odyssée intellectuelle, on peut dire qu'en l'espace de quelques décennies, des chercheurs ont redéfini la nature du document le plus lu de l'histoire humaine.
C'est vertigineux quand on y pense.
D'un côté, Wellhausen a démembré l'unité du texte, pour en faire une lente évolution politique. Le fameux puzzle GEDP, imposant le présent d'une caste religieuse sur le passé. De l'autre, Gunkel a cherché le Sitz im Leben, la situation sociale originelle.
Transformant des événements racontés comme historiques en poésie folklorique et en légendes explicatives, reléguant au passage les partisans de la vérité littérale au rang de barbares pieux.
C'est une transformation où le texte cesse d'être une fenêtre transparente sur le passé pour devenir un miroir, reflétant les croyances et les structures sociales de ceux qui l'ont composé.
Tout à fait.
Et cela nous amène à une réflexion finale que je trouve personnellement saisissante.
Je t'écoute.
Nous vivons dans une civilisation dont les concepts de justice, de loi, de droits humains et d'identité collective ont été très largement fondés sur l'autorité de ces mêmes textes pendant des millénaires.
C'est notre héritage, oui.
Si, comme l'affirment ces théories, la fondation de ce texte ne repose plus sur une réalité historique tangible, mais exclusivement sur la beauté poétique d'un mythe et sur la fonction sociale d'une légende antique, eh bien, qu'arrive-t-il à la structure bâtie dessus ?
C'est la grande question.
Un édifice philosophique, moral et juridique peut-il rester éternellement solide s'il est construit sur de magnifiques, mais fictives, métaphores ? C'est une véritable énigme que l'on peut tous ruminer de notre côté. Un immense merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans les profondeurs de cette critique académique. On se retrouve très vite pour poursuivre notre exploration.